RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 RFI. Bonsoir Frédéric Rivière.
Bonsoir Rosine, bonsoir à tous.
Et ensemble, nous recevons Éric Coquerel, président de la commission des finances, député LFI, NFP. Bonsoir à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Jean-Marie Le Pen, le père de Marine Le Pen est mort aujourd'hui à l'âge de 96 ans. Chacun y est allé de son commentaire et de sa réaction. Que représentait pour vous celui qui a créé le Front National en 1972 ?
Un adversaire évident et celui qui, malheureusement, a permis à l'extrême droite, qui avait été très largement délégitimée et même marginalisée du fait de la Deuxième Guerre mondiale, de la résistance contre le nazisme, de reprendre pied dans le pays sur des bases clairement racistes, antisémites, et puisant dans les racines de l'extrême droite, y compris la plus rance. Je vous rappelle que le Front National avait été créé avec des Waffen-SS, ce qui est le contraire de tous mes principes. Donc voilà, c'est Jean-Marie Le Pen. Alors, quand quelqu'un meurt, on a même vis-à-vis des pires adversaires, je trouve normal d'avoir un peu de retenue dans les commentaires. Mais n'empêche, ça ne change pas le fait qu'il a représenté ça et que si l'homme est mort aujourd'hui, le combat, malheureusement, reste toujours plus d'actualité sur ce qu'il a contribué à développer, redévelopper et à
alimenter. Alors, il était persuadé que l'histoire lui donnerait raison sur l'immigration. Et aujourd'hui, son parti, rebaptisé le Rassemblement National, est aux portes du pouvoir. Vous en tirez quoi
J'en tire comme conclusion que... je vais faire, moi, tout ce que je peux à l'avenir, et j'ai déjà fait tout ce que je pouvais dans le passé, avec mes camarades, pour faire en sorte que ces prévisions ne se réalisent pas et que l'extrême droite ne gouverne pas ce pays. Pas plus que, d'ailleurs, elle ne gouverne d'autres endroits du monde. Parce que force est de constater, mais je pense que ça dépasse le personnage de Jean-Marie Le Pen, c'est qu'il y a... on voit bien qu'il y a une espèce d'extrême droitisation de pas mal de régimes, sans forcément d'ailleurs avec des gens qui ont des liens avec l'extrême droite organisée, qui viennent pas forcément de l'extrême droite, mais qui véhiculent ces idées. Je pense à Trump, je pense à Orban, je pense à Bolsonaro, je pense à...
Est-ce qu'il n'était pas un peu Trump avant l'heure, Le Pen ?
Ah, sûrement, ou peut-être que... ou peut-être que d'ailleurs Trump a peut-être vu des vidéos de Le Pen, c'est peut-être possible, mais ça m'inquiète. C'est-à-dire cette montée de l'idéologie d'extrême droite, cette banalisation, cette reprise, y compris à certains moments par un personnel politique qui, théoriquement, ne fait pas partie de leur rang. Moi, le fait, par exemple, on parle aujourd'hui du racisme, le fait que, par exemple, on ait un ministre de l'Intérieur, il y a quelque temps, qui a pas repris l'expression « français de papier », qui est une expression typiquement d'extrême droite, quelque chose qui est proprement maurrassien, pour définir les Français qui ne seraient pas nés sur le sol du pays ou qui ne seraient pas nés de parents nés sur le sol du pays, laissez-moi vous dire qu'évidemment, ça m'inquiète. C'est-à-dire que force est de constater que leur idéologie, plus d'ailleurs peut-être dans, entre guillemets, l'élite politico-médiatique que dans le peuple en général, a gagné depuis quelque temps et que, il faut continuer le combat.
Éric Coquerel, Jean-Marie Le Pen avait, vous l'avez d'ailleurs un peu évoqué tout à l'heure, avait réussi à rassembler les mouvances d'extrême droite. Et il y avait chez lui un certain nombre de caractéristiques qui lui sont assez largement reconnues, y compris d'ailleurs depuis son décès par les personnalités qui en dressent un portrait. On disait de lui que c'était un homme cultivé, que c'était un homme qui connaissait l'histoire, que c'était un redoutable débatteur, que c'était un bon tribun, qui savait très bien varier les registres de langage. Finalement, à l'exception de ses idées politiques, est-ce que vous ne voyez pas là des ressemblances avec un autre personnage politique que vous connaissez bien ?
Qui ça ?
Je vous laisse deviner.
Excusez-moi si vous faites une comparaison.
Un personnage qui connaît bien l'histoire, qui sait bien varier les registres de langage, qui a rassemblé l'extrême gauche. Je vous pose une question sur la personnalité, sur la
comparaison qui vous honore pas, mais enfin ça vous regarde. Excusez-moi, mais vous pouvez pas. Jean-Marie Le Pen, il se définit pas par le verbe ou
Je dis que c'est un des aspects.
Il se définit d'abord sur le fait qu'il a été 25 fois condamné par la justice, pour des faits absolument graves qui vont de crimes de négation des crimes contre l'humanité, etc. Que je sache, il n'y a pas de comparaison à ce niveau-là. Donc, moi, je refuse toute comparaison entre quelqu'un qui se situe en adversaire des principes républicains, qui se situe du côté de délits qui sont ceux du racisme, etc., et puis un responsable politique qui est du côté de la République et qui...
J'ai bien précisé, au-delà des idées, Éric Coquerel.
Le fait que nos principes républicains, liberté, égalité, fraternité, deviennent une réalité.
Que c'était au-delà des
idées.
Oui,
mais d'accord, mais... La façon
de faire de la politique, les références historiques, le langage, la façon de se comporter à la tribune. Vous ne voyez pas...
Quand je vois Jean-Marie Le Pen, quand je l'écoute, je ne vois aucun point de comparaison.
Le dessinateur Cabu a fait effectivement
un dessin qui est dégueulasse. Voilà, qui est dégueulasse.
Qui rappelait la phrase
révisionniste. Qui établit un parallèle dans l'esprit de gens.
Mais sur les idées.
Qui ont servi, justement, en faisant ça, vous banalisez l'extrême droite.
Il faudrait l'expliquer, ce dessin, peut-être.
Vous banalisez l'extrême droite.
Il faut expliquer ce dessin, parce que...
Oui, c'est un dessin qui explique que Jean-Marie Le Pen n'est pas mort et on voit Jean-Luc Mélenchon. Excusez-moi, mais je trouve ça pourri. Si, c'est ça le dessin.
Citant la phrase de Mélenchon qui disait l'antisémitisme en France est résiduel.
Bien sûr. Et citant la phrase de Le Pen, c'est un détail de l'histoire, et on ne parle pas du rafraîchissement crématoire. Que je sache, Jean-Luc Mélenchon n'a jamais été condamné par la justice, tout simplement parce que, y compris la phrase dont vous parlez, qui est dans une autre blog,
il compare pas explique Mélenchon que
explique
et Le Pen,
qu'il combat l'antisémitisme de manière fondamentale, etc., donne ce qui est aujourd'hui son analyse sur la montée de l'antisémitisme, et donc n'a aucun rapport avec des faits antisémitistes. Mais comprenez que... Vous me dites ça et vous étonnez que je réagisse. Comprenez que pour un militant de gauche qui a toujours combattu le racisme, l'antisémitisme, Le Pen, que ce soit toute la famille Le Pen, dans une progression absolument dramatique où on parle peut-être que lui et les gens qu'il a générés prennent le pouvoir. Où on se retrouve, par exemple, on parlait avec un compte Facebook il n'y a pas très longtemps, 2000 personnes dans lesquelles il y a plein de députés du Rassemblement national, ça n'a pas fait une ligne dans les journaux, qui sont sur ce compte dans lesquels il y a un déchaînement raciste. Et que vous me fassiez une comparaison avec celui dans lequel je me reconnais en tant que leader, je vous assure que c'est...
Comprenez que je me permets de vous rappeler... Oui, mais attendez, parce que Éric Coquerel, vous mettez en cause.
Non, mais je vous mets en cause. C'est moi qui vous mettez en cause quand vous dites
des choses comme ça. Les points de ressemblance que j'ai évoqués, c'est un homme cultivé, je dis, qui connaît l'histoire, redoutable débatteur, bon tribun, qui sait bien varier les registres de langage. Je ne vois pas ce qu'il y a d'infamant dans ce portrait-là.
Donc vous le comparez avec Emmanuel Macron, François Mitterrand, avec je ne sais pas qui.
C'est vous qui le dites.
Vous me parlez de gens qui... Vous réduisez Jean-Marie Le Pen, d'ailleurs il en serait assez amusé parce qu'il estimerait que vous êtes quelque part tombé dans son piège, vous réduisez Jean-Marie Le Pen au fait que c'était un bon débatteur,
je ne le réduis pas,
un bon tribun, etc. Mais ce n'est pas ça qui le définit. Ce qui définit le fait d'être... C'est le fait que sa référence est celle d'une domination et d'une idéologie raciste qui ont fait les dégâts qu'on connaît pendant la Deuxième Guerre mondiale, qu'on continue à sévir et qui sévit aujourd'hui.
Ça, vous l'aviez dit, Éric Coquerel, vous l'aviez dit d'emblée.
Donc, toute comparaison,
je vous parlais d'un autre aspect.
Pour moi, c'est à la fois, ça banalise l'extrême droite et c'est extrêmement déshonorant pour des militants comme moi.
D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai dit Cabu, c'était Plantu, le dessin de Plantu. Donc, on commémorera justement ce matin.
Pauvre Cabu, ne mélangeons surtout pas.
Bah oui, parce que Cabu, on est dans le... Justement, on commémorait ce matin les 10 ans de l'attentat de Charlie Hebdo et de l'hypercachère à Paris. D'après vous, Éric Coquerel, que reste-t-il de l'esprit de Charlie, qui d'ailleurs n'a jamais vraiment fait l'unanimité à la France insoumise ?
Oh si, l'esprit « Je suis Charlie », on a été parmi les premiers. Moi, il se trouve qu'il y a 10 ans, j'étais le premier élu à être présent sur les lieux. C'était un hasard, parce que je travaillais juste à côté, et que comme beaucoup de gens de ma génération engagés... pour moi, c'était les nôtres qu'on assassinait, c'était nos idées qu'on assassinait, c'est-à-dire le droit de le droit d'expression, le droit de critiquer toutes les religions, etc. Bon, donc j'étais un des premiers élus, et Et je me souviens que le soir même à République, nous étions parmi, je parle là de, c'était pas France Insoumise, c'était le Parti Gauche à l'époque, nous étions parmi les forces qui étions les plus présentes. Donc moi, finalement, ce moment-là est absolument décisif. Et par rapport à ce moment-là, moi, je continue à dire que sur ce qui s'est passé à ce moment-là, bien évidemment, nous devions être Charlie. Nous devions être Charlie parce que à la fois, c'était un front contre l'obscurantisme islamiste, contre le terrorisme islamique, mais c'était aussi afficher une nation qui refuse la division, qui refuse tout amalgame, toute discrimination, et qui se bat au nom de ses principes, sa liberté d'expression. Donc de ce point de vue-là, ce qui s'est passé dans le pays était quelque chose d'assez de fort, de très fort, avec un refus, mais de haut en bas d'ailleurs. Il y a vraiment quelques voix marginales qui, à ce moment-là, ont choisi de le récupérer pour faire des amalgames, par exemple, avec nos compatriotes de religion musulmane. Le pays a tenu, la nation a tenu, et de ce point de vue-là, c'est ça que pour moi signifie « je suis Charlie ».
Le droit de blasphème pour vous aujourd'hui, il est important en France ? Il faut pouvoir l'exercer librement ?
Le droit de critiquer les religions est absolument nécessaire, la liberté de la presse. Vous savez, tout à l'heure j'étais à un hommage rendu devant les lieux mêmes, rue Nicolas Appert de l'ancienne rédaction de Saint-Denis, avec les syndicats de journalistes, qui ont rappelé que la question de la liberté de la presse était d'autant plus fondamentale, c'est qu'on n'a jamais eu autant aujourd'hui de journalistes tués pour leurs idées partout dans le monde. D'accord ? Et que c'est ça qui aussi était attaqué à ce moment-là. Je n'oublie pas aussi les autres victimes, tués parce que policiers, tués parce que juifs,
à
l'hyper-cachère. Oui. Bon, donc tout ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument rappeler. Le policier qui a été tué en 11e, il est tué alors qu'il demande pitié et qu'on le tue parce qu'il est vraisemblablement d'origine musulmane et qu'on le tue de ce fait-là. Bon, et parce que, je veux dire, il y a tout ce que nous combattons dans cette période et je veux dire qu'il faut... moi, je crois que c'est important de s'en rappeler, de rendre hommage et d'espérer que tout ça soit des combats qui soient nécessaires et à continuer à mener et d'éviter tout amalgame et discrimination basée sur ce que font ces terroristes islamistes.
Alors, Éric Coquerel, vous êtes donc président de la commission des finances à l'Assemblée nationale. Donc, le nouveau ministre de l'économie, Éric Lombard, commence à dévoiler son budget en indiquant qu'il visait 50 milliards au lieu de 60 milliards que souhaitait Michel Barnier. Est-ce que ça change quelque chose pour vous ? Et est-ce que 10 milliards en moins, c'est déjà ça de prix ?
En fait, en réalité, déjà, disons une chose, parce que ça ne se dit pas trop, mais il reprend le même budget. C'est-à-dire qu'il va reprendre le budget tel qu'il était discuté au Sénat. Donc, par exemple, sur les recettes, il ne va pas pouvoir modifier grand-chose. Il y a une règle qui s'appelle la règle de l'entonnoir. Vous ne pouvez pas mettre des nouveaux dispositifs. Et on sait qu'il y a certaines parties... disent-ils, en tout cas, avancent-ils de ces recettes qui vont ne pas pouvoir être de nouveau sur la table. Je pense notamment à la taxation des ultra-riches, même si je crois qu'en réalité, il y a des manières de le faire, mais je n'ai pas trop le temps là, de discuter techniquement pourquoi. Mais il va y avoir moins de recettes. Et par contre, la discussion qui va se poursuivre, possible, parce qu'elle continue au Sénat, c'est ses dépenses. Donc moi, ma grande crainte, c'est qu'on ait un budget pire que celui de M. Barnier, c'est-à-dire qu'il continue à s'attaquer aux dépenses publiques, à la baisse des dépenses publiques, avec donc l'aspect récessif sur l'économie. Vous avez vu que la croissance est annoncée à 0,8-0,9, elle baisse. Donc un aspect récessif et un aspect évidemment problématique pour répondre aux besoins des Français, que ce soit en Outre-mer, en métropole ou en...
Donc vous êtes en train de nous expliquer, vous mordez les doigts de la censure alors ?
Ah mais je pense que ça va se terminer pareillement, parce que ce budget sera aussi...
Vous avez passé votre vie à censurer tous les...
Mais j'invite M. Macron à ne pas passer sa vie à nommer des gouvernements minoritaires dans le pays qui appliquent un projet minoritaire. Vous ne pouvez pas demander à l'opposition de dire « puisque M. Macron ne respecte pas la démocratie, n'appelle pas la coalition arrivée en tête, on va laisser passer des budgets qui, en plus, sont mauvais pour le pays. » Donc non, on va le faire jusqu'à ce qu'on arrive justement à déboucher.
– Si vous recensurez ce gouvernement, ou si vous censurez ce gouvernement aussi, les seules voix de gauche et des écologistes ne suffiront pas, vous le savez.
– Oui, écoutez, chaque groupe
il vous faudra des voix d'appoint.
– Mais ce qui s'est passé l'autre fois, chaque groupe sera responsable. –
Du Rassemblement National.
– Chaque groupe sera responsable par rapport à ce qui s'est engagé au niveau législatif, parce que ce que je sais par contre, c'est qu'il y a une chose qui ne peut pas fonctionner, c'est que vous ne pouvez pas continuer à gouverner le pays avec une minorité. Ça n'existe pas, ça ne tient pas 3 ans. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, comme on est sur un blocage politique, comme on est sur la nécessité d'un ressaisissement, mais non pas collectif, comme dit le chef de l'État, mais ressaisissement individuel, c'est-à-dire le sien, il faut qu'il prenne ses responsabilités. Soit il trouve un moyen pour débloquer la situation, je l'ai dit, c'est en appelant la coalition arrivée en tête, soit effectivement, c'est ce qu'on met sur la table, il faut que les Français votent, c'est ce qu'il a dit d'ailleurs, il faut que les Français votent, mais dans ces cas-là, ça sera pour une nouvelle élection présidentielle. Parce qu'il n'y a qu'un référendum qui tient. Est-ce que oui ou non, on veut continuer avec Emmanuel Macron ? C'est ça qu'il devrait poser aux Français. Je ne pense pas qu'il va le faire, mais c'est ça qu'il devrait poser. Donc l'autre façon de le faire, c'est de partir.
Pourquoi vous n'avez pas négocié à Matignon ?
Mais négocier quoi ? Avec un gouvernement où il y a encore plus de macronistes que la dernière fois, où on a M. Retailleau, M. Darmanin qui rivalisent de mesures et de propos réactionnaires, où on a Mme Borne qui revient au gouvernement alors qu'elle est quand même le symbole du 49-3 et de la réforme des retraites. Vous voyez bien que ce gouvernement, et d'ailleurs ça a été annoncé par Éric Lombard, j'ai des bonnes relations avec Éric
Lombard, le nouveau ministre,
il était président de la Caisse des dépôts, ce n'est pas un problème, mais n'empêche, il l'a dit dans la tribune, il est quand même là pour appliquer globalement la même politique budgétaire, celle qui nous met dans le mur, pas que nous d'ailleurs en France, mais en Europe un peu partout. Donc voilà, négocier quoi ? Négocier. Ils nous demandent en réalité de négocier et de s'entendre pour permettre que leur budget passe alors qu'il est minoritaire. Ce n'est pas ce qu'on doit demander aux oppositions.
Les relations entre la France et l'Algérie sont particulièrement dégradées depuis un petit moment déjà, mais là avec une acuité particulière. Pour vous, qui est responsable de cette situation ?
Bah, écoutez, moi, je pense que la responsabilité. Bon, on a une histoire particulière avec l'Algérie, ce qui fait qu'il faut.
Indiscutablement.
Voilà, il faut toujours qu'on fasse très attention à la façon dont on s'exprime. Tout comme d'ailleurs le chef de l'État devrait faire attention à la façon dont il vient de s'exprimer vis-à-vis de plusieurs pays africains.
Ah oui.
Voilà, en expliquant qu'il n'avait même pas dit merci à la France et qu'ils n'étaient finalement pas redevables de tout ce que la France avait apporté. Alors
et sans leur intervention, ils ne seraient plus à la tête de leur
pays. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, des propos qui sont. À peu près du même niveau qu'à Mayotte l'autre jour, quand il a expliqué à des Français de Mayotte qu'ils devaient être contents d'être Français, parce que sinon, la situation serait encore pire. Donc, moi, je dis que sur l'Algérie, il faut faire très attention à ce que nous disons et la manière dont nous avançons. Si votre question, c'est par rapport à cet écrivain algérien qui est emprisonné, moi, je pense
que.
Qui est franco-algérien, je pense que c'est normal de demander sa libération et de le dire fermement. Voilà, je pense que c'est normal. J'observe simplement qu'il y a pas mal d'autres endroits dans le monde où nous pourrions avoir le même genre de revendication, mais je suis pour le dire. Donc voilà, maintenant, il ne faudrait pas que, j'allais dire, le chef de l'État, y compris cet été, vous le savez, a pris des déclarations, par exemple, sur le Sahara. Le Sahara occidental, excusez-moi. Je pense que là-dessus, il n'est pas prudent sur quelque chose qui doit se traiter au niveau de l'ONU, qui est dans les questions. Donc voilà, j'allais dire que peut-être que la politique d'Emmanuel Macron vis-à-vis, entre guillemets, des anciennes colonies, que ce soit en Afrique ou en Algérie, n'est pas assez prudente et fait preuve finalement d'une façon encore assez, assez paternaliste, néocolonialiste de voir les choses. Voilà ce que je crois.
Merci beaucoup, Éric Coxrel, d'avoir été notre invité. Merci à Flore Simon et à Camille Nairon d'avoir préparé cette émission. Merci à toute l'équipe technique. À très vite.